Et les attaques que nous... La question que nous vous posions hier est la suivante. Les attaques des rebelles houthis en mer Rouge sont-elles juste de la provocation? Vous avez été nombreux à répondre à cette question. Et sur Facebook, par exemple, vous êtes 61 à penser que oui, qu'il ne s'agit que de provocation. Non, à 39%. Donc, sur Insta, c'est quasiment l'inverse. 40% de oui pour 60% de non. Et enfin, 33% de oui sur X, anciennement Twitter, et non à 67%. Et nous sommes donc ravis d'accueillir ce matin, vous êtes ravis, Lucie, d'accueillir pour nous aider à décrypter cet épineux sujet, David Rigoulet-Rose. Il est chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule à l'arabique. Il a d'ailleurs récemment consacré un article sur la question dans sa revue Orient Stratégique. Je vous laisse en sa compagnie.
David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce matin, notre question du jour porte sur les attaques des rebelles houthis de ces derniers jours. Sont-elles juste une provocation?
Ah non, c'est pas juste une provocation. Les attaques sont multipliées. Encore une aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a un bateau qui a été visé, qui est l'Armor Encounter, qui est matriculé aux Bahamas, qui venait d'Inde, à destination supposée d'Israël et qui a été ciblé justement par des missiles, y compris un bateau américain d'ailleurs qui était dans la zone, qui a fait l'objet d'un ciblage, et donc les missiles ont été détruits. Mais au niveau du cap du détroit du Bab el-Mandeb, donc une zone très sensible effectivement, puisque c'est par là que transite 5% du pétrole mondial, mais aussi près d'un tiers du transit commercial maritime. Ça représente 20 000 navires par an. Donc on voit bien que c'est une jugulaire maritime extrêmement importante, et les Houthis, justement, ont décidé de manifester le fait que la zone devient de plus en plus insécurisée, parce qu'il s'agit de leur part de manifester leur solidarité avec le Hamas dans la bande de Gaza. Au motif qu'il ferait partie de ce qu'on appelle la Mukawama, c'est-à-dire l'axe de la résistance contre Israël, qui regroupe en fait l'essentiel des mandataires, des proxys pro-iraniens de la région, dont les Houthis font partie.
Donc, vous l'avez dit, de nouveaux incidents ont eu lieu en mer Rouge dans les derniers jours, dont ce pétrolier battant pavillon des îles Marshall. On comprend bien que les rebelles houthis souhaitent s'attaquer à des intérêts israéliens, mais dans la réalité, ils attaquent surtout des bateaux occidentaux, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Cela pourrait-il mondialiser ce conflit un peu plus encore?
Oui, de facto, il est en train de se mondialiser, effectivement, dans la mesure où la mer Rouge est une zone de transit international et que dans le droit maritime international, liberté de navigation est un principe sacro-saint. Qui fait l'objet d'une surveillance permanente, et donc il est illégal effectivement de menacer la sécurité maritime. Alors il se trouve que dans l'argumentaire des Houthis, ils font référence à des bateaux qui seraient supposés être la propriété en dernier ressort de d'Israéliens. Ça a été le cas précédemment pour d'autres bateaux, notamment du milliardaire Avraham Rami Ungar. Mais en réalité, il y a effectivement une multiplication d'attaques qui vivent en fait l'ensemble du transit maritime, et c'est ce qui explique l'inquiétude des Occidentaux aujourd'hui, qui manifestent l'urgence de pallier la situation dans la zone.
Et donc les États-Unis et la Grande-Bretagne reprochent à l'Iran de soutenir les Houthis. Téhéran affirme que ses alliés prennent leurs décisions en toute indépendance. Quelle est l'implication réelle de l'Iran à votre avis?
L'Iran, de toute façon, joue sur le principe de ce que les anglo-saxons qualifient de plausible deniability, c'est-à-dire de déni plausible. Il n'est pas question pour l'Iran de revendiquer une responsabilité directe dans ce qui se passe. Mais évidemment, l'Iran inspire ses mandataires, ses proxys au niveau régional pour manifester justement une stratégie de déstabilisation. Et il se trouve que les Houthis sont un élément central de cet arc de la Mukawama, de la dite résistance contre Israël, ce qui n'empêche pas ces mandataires d'avoir une marge de manœuvre tactique dans les modalités, dans le calendrier. Mais au niveau stratégique, l'ensemble de ces mandataires, évidemment, sont indexés sur les intérêts géopolitiques stratégiques de Téhéran.
Les rebelles houthis donc ont revendiqué mardi cette attaque du pétrolier norvégien le Strinda, car il transportait du carburant pour Israël. Peut-on craindre qu'il s'implique vraiment dans la guerre à Gaza?
Non, il s'implique pas, mais il s'implique ne serait-ce qu'en effectivement en participant à la déstabilisation de la mer Rouge. Ils vont pas participer directement auprès du Hamas, mais ils manifestent à travers cette instabilité entretenue en mer Rouge la solidarité qu'ils veulent afficher avec le Hamas, compris Israël. Et évidemment, ça s'élargit au niveau des enjeux internationaux, puisque j'évoquais tout à l'heure le fait que la mer Rouge, mais surtout le détroit du Bab el-Mandeb, constituent une artère majeure du commerce international, du transit maritime international. Donc de ce point de vue-là, les Houthis manifestent le fait qu'ils ont la possibilité de verrouiller et d'inquiéter. D'ailleurs, là où il y a une forme d'internationalisation, c'est que par-delà le fait de viser des bateaux supposément être la propriété d'Israéliens, de toute façon, ça concerne le transit dans son ensemble, puisqu'il y a une hausse importante, notamment des primes d'assurance, qui concerne non seulement les navires, mais aussi les équipages, puisqu'il y a une prise de risque supplémentaire. Donc, ça oblige certaines compagnies, d'ailleurs, à considérer d'autres trajets, et notamment à détourner le transit via le Cap de Bonne-Espérance, mais qui rajoute effectivement plus d'un mois de navigation. Donc, c'est de la part des Houthis une stratégie effectivement globale au niveau de cet espace maritime.
Ma prochaine question, donc les Houthis s'attaquent à Israël par idéologie ou pour saboter un peu plus le rapprochement entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite, leur ennemi juré au Moyen-Orient?
Oui, là, c'est pour viser plus spécifiquement l'État hébreu et notamment montrer sa solidarité avec le Hamas, puisque jusqu'à présent, les drones et les missiles Houthis visaient le royaume d'Arabie saoudite. Mais il se trouve que depuis on va dire le rétablissement des relations entre Riyad et Téhéran en mars dernier, ces frappes ont cessé et elles ont été détournées justement sur le Proche-Orient, sur la zone effectivement où se déroule la guerre actuellement, pour viser plus spécifiquement Israël, notamment le sud d'Israël, la zone d'Eilat, qui il faut rappeler que c'est une zone touristique, mais pas seulement. C'est là aussi où une partie des Israéliens qui ont été délocalisés près de la bande de Gaza et du nord de la frontière se sont retrouvés justement relogés. Donc c'est pas un hasard non plus si cette zone autour d'Eilat est visée aujourd'hui.
Et donc, par rapport justement, vous l'avez mentionné, les Houthis, on a vu les Houthis tirer des missiles sur la ville d'Eilat, où se trouvent de nombreux réfugiés du sud qui n'ont plus de maison. Peut-on imaginer qu'Israël doive les évacuer de nouveau à cause de cette menace?
Ça dépendra beaucoup de toute façon de l'évolution de la situation si les tirs se multiplient. Pour l'instant, aucun missile n'a atteint le territoire israélien, mais on sait que c'est possible, puisqu'on l'a vu avec le lancer des missiles du Hamas. Donc effectivement, c'est un sujet de préoccupation majeur. Et d'ailleurs, il y a eu un événement important fin octobre, avec la première utilisation effective en situation de combat du système Arrow-2 israélien, qui a abattu un missile Qadir, qui est un dérivé du missile Shahab-3 iranien, qui avait été lancé par les Houthis. Et il se trouve que c'est la première fois que ce type de missile était intercepté dans sa modalité extra-atmosphérique. Jusqu'à présent, les missiles sont interceptés soit au départ, soit à l'arrivée. Là, c'était la première fois, donc c'est un double message. C'est un message d'abord des Houthis pour montrer qu'ils peuvent menacer Israël dans cet espace extra-atmosphérique et la réponse israélienne pour montrer qu'effectivement la dissuasion est restaurée avec leur système armé.
Et donc, comment la communauté internationale peut-elle réagir à ces attaques et préserver du coup la sécurité maritime en mer Rouge?
Il y a une montée en puissance effectivement des marines, on va dire, notamment occidentales. Anglo-saxonne, française, puisqu'il faut rappeler que c'est une frégate française hein, qui a abattu lundi un missile justement qui visait un bateau norvégien. Donc c'est effectivement une forme de police maritime qui est en train de se mettre en place. Il y a déjà une modalité de police maritime qui s'appelle la Task Force 135. Mais là effectivement, il est question de renforcer ce dispositif maritime pour balayer en fait toute la mer Rouge et essayer de restaurer une dissuasion vis-à-vis de cette menace balistique qui vise non seulement l'espace maritime et le transit, mais au-delà aujourd'hui.
Eh bien, David Rigolet-Rose, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et plus particulièrement la péninsule arabique, et que vous avez récemment consacré un article sur cette question des rebelles houthis dans la revue que vous dirigez, Orient Stratégique.
Merci.